Alors bonjour à tous, on va commencer donc la conférence sur Salut les anges, nouvelles créatures de la fantasy. Donc j'ai tout à ma gauche Alice Carling, Sophie Jomain, Loris Muraille et Karina Rosenfeld pour parler avec nous, avec vous de ce sujet. Alors si on parle de l'imagerie populaire, des anges, des angelots, des chérubins, on a une vision assez lisse, on va dire, depuis la Renaissance, des petits êtres joufflus avec des ailes. Or au départ, le mot chérubin, c'est une tradition moyen-orientale avec un mélange de taureaux, de lions, d'êtres humains, donc c'était quelque chose d'assez terrifiant en fait. Et on va se rendre compte que les anges, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on avait au départ des êtres forts et qui sont dans l'Ancien Testament assez terrifiants aussi, hein, puisque quand il y a une révolte des anges, Dieu envoie les archanges faire le ménage et ça condamne les anges rebelles à un feu souterrain éternel, donc c'est quand même pas très sympa. Et en fait, cette image, c'est quand même beaucoup, on va dire, affadie, ou en tout cas, c'est beaucoup transformé, et on a une image classique de l'ange comme un être lumineux avec des ailes et un être bienveillant. Alors, je vais commencer par Loris Muraille pour ce que disent les nuages, parce qu'on a priori, mais il va nous en parler, une vision assez classique de l'ange dans ce texte.
Ah oui, oui, s'il y en a, sont des... oui, c'est selon la tradition chrétienne, en tout cas, parce qu'il y a, comme vous venez de l'indiquer, plusieurs origines possibles, mais il y a une tradition chrétienne qui est très... Comment dire, c'est très hiérarchisé. Il y a des cercles avec il y a des fonctions, il y a des niveaux, et il y a surtout il y a une littérature. Là, quand on regarde à Orange, vous auriez pu avoir énormément d'auteurs autour de ces étapes, parce qu'il y a une littérature, mais pas forcément de fiction, de gens qui parlent de ça extrêmement sérieusement. Et chaque ange a son nom, chaque ange est répertorié, il a ses caractéristiques. D'où vient cette science, ça sert à savoir.
Et effectivement, dans le texte, donc je vais juste citer un petit bout de ce que disent les nuages, parce qu'il y a vraiment l'apparition de l'ange au début qui apparaît donc au jeune personnage Colin, et on a vraiment l'impression d'être, il y a toutes les caractéristiques possibles quasiment de l'ange jusqu'au messager, puisqu'en fait au départ le mot ange veut dire messager, et que l'ange qui apparaît à Colin va lui transmettre un message. Donc je cite. De la suite, Colin ne put jamais tout dire, y compris à lui-même. Par exemple, il aurait été incapable d'indiquer combien de temps s'était écoulé entre sa chute et le moment où il avait rouvert les yeux. Des heures peut-être, mais peut-être une fraction de seconde. Rien au fond n'était certain, sauf la chose la plus incroyable entre toutes. Sur la margelle du puits était assise une créature nimbée de lumière. Encore à demi couchée par terre, Colin vit d'abord qu'elle avait les pieds nus et le corps couvert d'une tunique blanche. Le reste était difficile à distinguer en raison du halo plus éclatant que le soleil qui l'entourait. Il plaça une main en visière contre son front pour protéger ses yeux. La créature qu'il contemplait était de grande taille et la bonté irradiait d'elle. Fasciné par son beau visage au sourire infiniment doux, Colin ne remarqua pas tout de suite le détail révélateur entre tous. Attaché aux épaules et lui dissimulant à demi les bras, elle avait deux ailes d'or pâle. Alors, il y a la question de la révolte des anges, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je vais présenter d'abord les autres auteurs. Donc, Sophie Jomain et Alice Carling, dans votre texte, on est un petit peu moins sur la tradition biblique, stricte. Mais quand même, Alice Carling, dans votre livre, l'héroïne Sacha fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Raphaël. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Cesse donc de rire. Donc Raphaël, c'est un personnage qui... ça va être du spoiler, hein, mais c'est pas grave. Je pense qu'on le devine quand même assez rapidement. C'est pas là-dessus que repose le suspense du bouquin. Donc Raphaël, on va très rapidement découvrir que c'est un ange déchu. Ce qui m'intéressait, en fait... J'ai une grande fascination pour tout ce qui est biblique et apocalypse. Et pour la déchéance des anges, en fait. Donc j'avais envie d'un personnage qui soit... j'avais envie, en fait, de jouer avec le bien et le mal et l'idée qu'on s'en fait et l'idée qu'on se fait du paradis et de l'enfer, et de retourner un peu les choses, et donc à commencer par ce personnage, Raphaël, qui donc a été... privé d'absolument tout ce qui faisait de lui un ange et qui à l'origine est une espèce d'archétype du paladin. S'il y en a parmi vous qui jouent au jeu de rôle, vous allez reconnaître le palouf, le mec qui est dans une armure qui brille et qui fait le bien. Et peu importe ce qu'on fait, il est en train de faire le bien. Et ce mec-là, en fait, je lui ai enlevé toutes ses capacités et toute sa foi, en fait, en ce qu'il faisait, pour voir comment il allait réagir derrière. Et je trouve que ça fait un truc un peu fun, parce que finalement, il est quand même bien paumé, le garçon, après. Voilà.
Et comment est-ce que Sacha le rencontre, alors, ce Raphaël Sauce?
Eh bien, Sacha a ce pouvoir un peu particulier, donc, qui est de pouvoir posséder les gens. Donc, quand elle touche quelqu'un, elle peut prendre possession de son corps et faire un peu ce qu'elle veut. Elle s'en sert essentiellement pour dérober de l'argent à des gens en boîte de nuit, ce qui n'est pas une activité très recommandable. Et aussi, de temps en temps, quand elle tombe sur un vampire, elle en profite pour l'éliminer. Parce qu'elle a une dent contre les vampires, le jeu de mots était gratuit. Et donc, un soir, elle va croiser un type. Elle est convaincue que c'est un vampire également. Donc, elle se dit, lui, il est sur ma liste à tuer ce soir. Il va prendre cher. Elle le suit dans une ruelle. Et en fait, c'est elle qui prend cher. Déjà, son pouvoir ne marche pas sur lui. Et puis, elle se réveille enchaînée dans une cave. Et ensuite, ça va très mal se passer pour elle.
Merci. Chez vous, Sophie Jomain, on rencontre un flic écossais. Donc déjà, au départ, on n'est pas sûr que ce soit un ange, pas du tout même. Terence McAllister, et en fait, il avoue à l'héroïne, Felicity, qu'il est un ange. Est-ce que vous pouvez nous parler du moment où, justement, il avoue, quel est un peu sur quel point elle le piège? Parce qu'elle dit, mais voilà, comment est-ce que c'est possible ça? Et c'est là qu'il lui dit...
En fait, c'est un personnage... Dans l'angéologie, les anges sont tout en bas de l'échelle, en l'angéologie chrétienne, et ils doivent être à l'image de l'homme pour leur faire passer un message. Donc McAllister ne déroge pas à la règle, il ressemble à un être humain, il en a toutes les capacités, il a toutes les options, avec ce petit plus angélique qui fait qu'il est capable de glisser, de se dématérialiser, de se rematérialiser en une fraction de seconde d'un endroit à l'autre. Et Felicity Hadcock a eu des questions par rapport à ça, parce qu'elle trouve qu'il est quand même très rapide, et quand elle lui demande exactement où il en est, eh bien, il lui lâche brutalement, je suis un ange. Bien sûr, elle éclate de rire, elle lui dit, vas-y, prends-moi pour une buse, je suis pas un lapin de 3 semaines. Hein. Et il arrête le temps. Il arrête le temps, en plein restaurant, et donc elle se rend compte que Terence McAllister dit vrai, c'est un ange, il ressemble pas du tout au petit bonhomme avec des petites fesses potelées, avec des bonnes joues, il est sexy en diable, il est arrogant, il est scandaleux. Comment ce mec-là peut-il être un ange? Et pourtant, elle est bien obligée de le croire.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement, Sophie, de la façon dont... vous prenez pas vraiment les caractéristiques classiques, et quand notamment vraiment c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est on va parler de la révolte, j'ai déjà dit, mais on va aussi parler du commandant suprême, parce qu'on parle d'ange, donc on parle de Dieu. Et votre ange, il a l'air quand même assez cool là-dessus, parce qu'il il a des relations avec les femmes et tout ça. Or, encore une fois, quand on reprend les origines, l'Ancien Testament, Dieu rigolait quand même pas avec beaucoup de choses. Et notamment, voilà. Et donc, dans votre texte, c'est quand même vachement plus cool, quoi.
En fait, quand on aborde la religion, que ce soit avec humour ou sincérité, il y a toujours un point qu'on oublie de mettre en exergue, même deux points. Le premier, c'est la foi. Le deuxième, c'est le libre arbitre. Lorsqu'on est... donc chrétien, puisque mon histoire de toute façon se base sur la foi chrétienne, Dieu dit, vous avez le libre arbitre, donc, et vous avez aussi le choix du repentir, donc vous avez le choix de l'erreur. Terence McAllister a très bien compris ce petit truc-là, c'est-à-dire, elle est mec, je suis dans la peau d'un être humain, je dois faire passer un message, donc laissez-moi agir comme un être humain. De toute façon, les êtres humains font que des conneries, donc moi aussi, je vais vachement en profiter. Donc je couche avec qui je veux, c'est mon libre arbitre, mais j'ai ma foi en Dieu, mais je sais aussi me faire pardonner. D'ailleurs, Félicity Adcock est assez scandalisée. Elle lui dit, mais attends, mais nous, ça fait des siècles qu'on nous rabat les oreilles. Tu ne coucheras pas avant le mariage. Tu n'auras pas plusieurs nanas. Et vous, vous faites strictement le contraire. Parce que le libre arbitre, parce que le repentir, parce que le pardon. Donc, au final, j'ai voulu faire un raccourci avec cet aspect-là de la foi et de la religion et mettre le lecteur en face de ça. Donc finalement, Terence a sans doute une foi beaucoup plus grande que celle qu'on pourrait avoir en tant que chrétien. Il ne se moque pas vraiment de Dieu. Il le respecte énormément. Mais je crois qu'il a compris plus que n'importe quel être humain ce que voulait dire ce fameux « Dieu est amour ». Donc il se permet de faire une panoplie de conneries parce qu'il sait qu'il va être pardonné, mais parce qu'il sait aussi qu'il y aura un vrai repentir de sa part.
Il y a aussi des personnages, comme dans le roman de Sacha, qui sont partiellement déchus. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi un petit peu ?
Donc oui, j'ai un personnage. Alors j'ai fait la distinction entre les anges déchus tels que peut l'être Satan et les anges qui sont entre deux. C'est-à-dire, ces anges-là, pour une raison X ou Y, sont éloignés par Dieu, pas déchus, éloignés pour réfléchir à leurs conditions. Voilà, tu es en désaccord avec moi, je t'aime, voilà, ça c'est un petit peu le côté biblique, tu es en désaccord avec moi, donc je vais te laisser réfléchir, tu vas conserver tes pouvoirs d'ange, et quand tu auras vraiment réfléchi, tu reviendras vers moi. Or, dans cet état-là, il y a Satan, qui se dit, attends, moi c'est de mon côté que j'aimerais bien qu'il vire, donc je vais aussi te donner des pouvoirs de démon. Donc c'est une créature qui est mi-ange, mi-démon, donc entre deux, et qui, pendant toute cette période, est quasiment, on va dire, invincible, et il va devoir faire son choix. Et il a tout le temps qu'il veut pour faire son choix, puisque Dieu ne désespère pas qu'il revienne à lui, mais Satan ne désespère pas non plus de pouvoir l'attirer à lui. Donc ça donne des personnages finalement assez intéressants qui sont souvent... Ils ne sont pas vraiment rebelles. Les entre-deux sont des personnages qui ont été profondément blessés par une décision divine, qui ne la comprennent pas, qui ne comprennent pas pourquoi on les a poussés aussi loin, pourquoi on a exigé d'eux des choses qui étaient presque contre nature. Ils ne se rebellent pas vraiment, ils sont juste... écœuré. Et c'est un peu ce que tu disais, ça donne finalement des personnages très complexes qui ont une sensibilité, qui sont beaucoup plus paumés qu'ils en ont l'air, hein, parce qu'ils aimaient profondément Dieu, ils ont été plus ou moins obligés de s'en détourner, ils gardent en eux des bribes de foi, et à la fois ils sont en totale rébellion contre ça. Et pour autant, ils ne seraient pas capables d'aller vers le malin tout de suite comme ça d'un claquement de doigts. Les entre-deux ont un petit peu ni Dieu ni maître, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'ils se redécouvrent.
Merci. Karina Rosenfeld, on va passer à vous. Alors, vous, c'est un petit peu particulier, parce qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas de citation de la tradition biblique, et pour cause, puisque, en fait, vos anges, vous allez nous en parler, ne sont pas de cette terre.
Et ils ne sont pas des anges, en fait. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une conférence sur les anges imaginales, on m'y colle. Et à chaque fois, j'explique que je n'ai jamais écrit de livre sur des anges, puisque mes personnages, bien qu'ils aient des ailes, ils ont des ailes parce qu'ils viennent d'une autre planète. Donc vous voyez vachement le rapport. Ils sont des extraterrestres. Voilà. Donc je n'ai jamais écrit d'histoire d'anges. Mais bon, parce qu'ils ont des ailes sur la couverture, je pense qu'on se dit « Ah, elle a écrit des personnages avec des ailes, on va lui mettre la conférence. » Donc c'est la troisième que je fais sur ce thème, aux imaginales. Et c'est la troisième fois que je suis obligée d'expliquer que je suis vraiment désolée. Si c'est vraiment les anges qui vous intéressent, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas écrit d'histoire d'anges.
Il y a juste une petite chose quand même, c'est que le héros s'appelle Ézéchiel,
oui.
Ouais, et c'est quand même un prophète.
J'ai fait exprès de l'appeler comme ça parce que le prophète Ézéchiel est réputé pour avoir rencontré des personnages ailés. Et j'ai trouvé que, pour faire une petite référence rigolote, parce que j'aime bien faire des noms qui ont un rapport comme ça. Mais voilà, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Il n'empêche qu'il est quand même... un extraterrestre, qu'il a des ailes parce qu'il vient d'une planète où à l'adolescence tous les habitants de cette planète se voient des ailes poussées dans le dos. Sauf qu'il ne le sait pas, lui qui vient de cette planète. Donc jusqu'à 16 ans, il a une vie parfaitement normale en pensant qu'il est un terrien, un humain comme tout le monde, jusqu'au moment où ses ailes poussent dans le dos et il découvre sa vraie nature d'extraterrestre, pas d'ange.
Et alors il vient d'une planète qui s'appelle Chébérite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Chébérite et pourquoi ce personnage Zek est sur Terre, quoi ?
Alors en fait, c'est un monde qui a été détruit. Pas explosion nucléaire ou etc. Je suis partie du principe que dans l'univers, il y avait deux pendants, c'était la création et la destruction. Et qu'effectivement, il y a des parties de l'univers qui continuent à se créer et d'autres qui sont en destruction, des trous noirs, des choses comme ça. Et donc cette destruction a détruit cette planète parce que c'est l'équilibre de l'univers et c'est dans l'ordre des choses. Sauf que les habitants de Chébérite n'ont pas eu envie de se laisser faire. Ils se sont dit, mais non, non. Donc avant, quand ils ont compris qu'ils étaient condamnés, ils ont... C'est pas le vrai mot parce qu'on peut imaginer qu'ils ont une technologie très différente de la nôtre, mais si on devait trouver un mot, ils ont numérisé, entre guillemets, tout ce qui concerne leur monde dans trois livres mondes qu'ils ont cachés sur Terre. Et ils ont fait venir ces deux enfants qui sont ignorants de leur sort hein, sur Terre aussi, et leur rôle, ce sera dans quelques années, pouvoir retrouver ces livres mondes pour recréer le Chébérite qui a disparu. Donc, si. On peut considérer qu'ils ont une mission peut-être angélique dans le sens où ils font le bien, ils veulent recréer un monde, ils ont ce côté on va vers quelque chose de positif et de constructif. Mais à part ça, non, eux, ils viennent donc de ce monde-là sans le savoir. Ils le découvrent au moment où les ailes poussent parce que forcément, ça fait un petit choc. Et là, ils découvrent quelle est leur mission. Et mon personnage principal, il n'est pas super heureux non plus. Hein. Lui, il vivait une vie normale, il était cool, il allait au lycée... Il faisait la bringue avec ses copains et tout. Et puis, du jour au lendemain, il se voit attribué une mission de sauver un monde dont il ignore tout. Et ça ne lui plaît pas au départ. Donc voilà. Les ailes, c'était juste pour créer une différence, pour leur donner un petit pouvoir qui leur permet peut-être de réaliser des choses et qui fait que les endroits où sont cachés les livres sur Terre, leurs ailes vont les aider forcément à avoir un rôle dans la découverte de là où ils sont. Mais voilà, ce n'est pas une histoire d'ange.
C'est pas grave, vous pouvez rester quand même.
Merci.
Loris Muraille, vous avez un personnage qui est donc Colin, le jeune garçon. Il va devenir un peu, malgré lui, une sorte de transmetteur radio. Il entend des voix.
Récepteur.
Oui, de récepteur, pardon, radio. Il entend des voix et en fait, il va être manipulé par des gens qui ont un but, c'est quand même de trouver le paradis sur Terre. Donc c'est déjà une mission qui est quand même... une sorte de mission un peu ultime, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait situer le contexte. En fait, on est dans un contexte à court terme sur notre planète. Je la décris telle qu'elle va bientôt se présenter à nous, c'est-à-dire en train de s'autodétruire, de s'assécher. Et le roman tourne autour d'un personnage qui est immensément riche, immensément puissant, mais qui malgré tout a un problème, c'est qu'il est sur sa terre et que là, il ne peut rien y faire. D'où cette idée, parce qu'il reste assez difficile d'envisager d'aller jusqu'à des planètes lointaines. Qu'est-ce qu'il trouve comme solution? C'est ce paradis terrestre qui, comme son nom l'indique, doit être sur Terre. Il faut savoir que pendant des siècles, les gens, très sérieusement, tous les explorateurs, l'ont cherché. On a cru pendant des siècles qu'il existait, qu'il avait existé, qu'il était soit introuvable, soit qu'il avait été dissimulé. Il se trouve qu'en effet, il a été refermé. Et Adam et Ève, en ayant été chassés, il n'a pas disparu, mais il a été refermé. Et l'idée est donc qu'il doit y avoir quelque part une clé, une façon d'y accéder. Et ce milliardaire pense que ça doit être peut-être l'ultime refuge sur Terre. Par ailleurs, comme notre planète est en phase de destruction, il y a un truc dont on parle assez souvent, c'est la couche d'ozone. Et c'est probablement la destruction, les trous, les fameux trous dans la couche d'ozone qui explique pourquoi tout d'un coup on se met à recevoir ces voix étranges qui sont les voix des anges. Sans doute que c'était la couche d'ozone qui faisait barrage, et puis tout d'un coup, ça commence à passer, on commence à capter des trucs. Et Colin, l'enfant, donc lui, est... Voilà, la scène que vous décrivez, que vous avez lue au début, voilà, il a une visite, il reçoit un message, manque de chance, il doit tomber dans les pommes, et on ne sait pas exactement ce qu'on lui a dit. Mais la clé, ça doit être lui.
Et en plus, les anges sont les gardiens du paradis. normalement dans la tradition biblique. Donc s'il entend, voilà, s'il entend.
Voilà, 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 tout se tient. Je précise que mon roman est un roman équilibré et qu'on y trouvera aussi les démons.
Il y a une guerre en fait qui fait.
Voilà, la guerre se continue, voilà, sur Terre. Voilà, c'est pas une fantaisie, c'est plutôt ce qu'on appellera une fable. Mon propos n'est pas de parler d'anges ni de démons, mais de parler de ce que nous sommes en train de faire sur notre planète.
Carina, il y a aussi une guerre en fait dans votre texte. C'est une guerre contre l'oubli. Vous avez un personnage de passeur qui s'appelle Ever, E-Y-V-E-R, donc comme Ever pour toujours en anglais, j'imagine. Enfin,
non.
Ah non.
Ever, c'est le passeur dans la Bible quand les Hébreux sont dans le désert.
D'accord.
Voilà. Ouais, je sais. Bon, je m'en vais.
comment est-ce que Zec quand même doit justement poursuivre. Vous avez un peu parlé des livres au monde, mais du coup, comment est-ce qu'il doit poursuivre cette guerre et contre qui en fait?
Mais en fait, le monde a disparu parce qu'on l'a oublié. Donc, si tout le monde a oublié une chose, cette chose-là ne peut plus exister. Elle n'est plus dans les consciences. Et donc, en fait, ce monde a été annihilé à travers l'oubli. Chaque habitant de cette planète on lui a mis un germe d'oubli et ils oublient qui ils sont, ils oublient leur vie, ils oublient leur passé, ils oublient leur personnalité, ils oublient leur monde. Et Vert, qui vient de ce monde-là, oublie aussi. Et donc il prend une espèce de décoction qui lui empêche d'oublier, mais ça détruit son corps. Si ça maintient son esprit, ça détruit son corps. Et donc c'est aussi un rapport... Oui, on parle souvent de l'histoire, de ce qu'il faut se rappeler de notre passé pour construire notre avenir. Et c'est vrai que si on oublie, par exemple, ces gens qui souffrent d'amnésie, à partir du moment où ils ont oublié qui ils sont, ils ne sont plus. Ils doivent reconstruire une identité. Et donc, c'est aussi une histoire de se dire comment on vivrait si on oubliait tout, si notre monde était plongé dans un oubli. Et c'est les ténèbres totales. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas une explosion nucléaire ou une guerre, ou c'est vraiment un concept lié à ça, la destruction, l'oubli, l'engloutissement vers il se passe des trucs là. Voilà, donc en fait l'idée c'est de lutter contre l'oubli. Donc il y a un peu une course contre la montre parce que la seule personne qui peut les aider c'est Ever. Il lutte contre l'oubli certes, mais il a quand même des pertes de mémoire et il est en train de mourir parce que ce qu'il prend pour l'aider à se souvenir le tue à petit feu. Donc il faut quand même réussir à trouver tous ces livres mondes avant que leur seule aide, la seule personne qui se souvient de ce monde et qui est capable de le transmettre d'une certaine manière et de transmettre les informations qui va leur permettre de retrouver les livres mondes disparaisse elle aussi.
Merci. Alice Carling, dans la guerre que mène Sacha contre les vampires, enfin une vengeance puisqu'ils ont tué les nonnes du couvent où elle a été élevée, qu'est-ce que Raphaël lui apporte alors dans cette guerre justement ?
Eh bien, Raphaël, donc, comme c'est le palouf qui fait le bien et qu'il a décidé de sauver tout le monde sur son cheval blanc, en fait, essaye, lui, d'acheter sa rédemption. Il essaye de... parce que, globalement, il est déchu parce qu'il a fait une erreur à un moment donné et que c'est sa punition d'être sur Terre avec les humains, soumis, en fait, à toutes les... tous les désirs, tous les besoins humains et avec l'interdiction en fait de les satisfaire s'il veut espérer à un moment donné redevenir un ange. Donc c'est une torture éternelle et du coup le pauvre garçon pour passer le temps, faut bien qu'il s'occupe. Hein. Donc il s'est choisi pour mission alors du coup comme il a plus de pouvoir angélique, va falloir y aller un ennemi à la fois. Donc là, il s'est choisi pour mission d'éliminer l'intégralité des vampires qui sévissent à Paris, et notamment le grand chef des vampires qui est très certainement celui qui a organisé l'attaque sur le couvent où habitait Sacha. Donc à partir du moment où ils se rencontrent et que l'un et l'autre se rendent compte qu'ils ne sont pas nécessairement ennemis, parce que c'est ce qu'ils pensent au départ, ils vont se dire, finalement, on pourrait allier nos forces, parce que voilà, on a un but commun, c'est zigouiller l'autre saligo de vampire. Donc voilà, c'est ça, c'est l'aide qu'il lui apporte au départ, c'est l'identité et la capacité à anéantir un vampire qui est beaucoup trop puissant pour elle toute seule.
Sophie, dans votre texte, les anges sont un peu l'administration du surnaturel. il contrôle les créatures qui dépassent les bornes. Est-ce qu'on peut parler quand même de guerre ou pas dans votre texte ?
Elle n'est pas clairement établie dans le premier tome, hein, mais au fur et à mesure de la série, on se rend compte qu'il y a vraiment une guerre entre le bien et le mal. Et finalement, on se rend compte que Dieu est peut-être au même point que Satan, que Belzébuth. C'est-à-dire, il veut récupérer le maximum d'âmes pour lui. Finalement, c'est la même chose. Après, à nous de décider ce qu'on préfère. Mais oui, il y a une véritable guerre. Les anges ont de toute façon pour mission d'éliminer les démons. D'ailleurs, un ange ne peut pas tuer un ange. Un démon ne peut pas tuer un démon. Mais un ange peut tuer un démon et vice-versa. Et l'entre-deux, lui, est au centre de cette guerre parce qu'il a le pouvoir de tuer et des anges et des démons. Toutefois, il y a une règle absolue. Si un entre-deux tue un ange, il devient démon. S'il tue un démon, il devient un ange. La boucle est bouclée. Donc il y a effectivement une guerre qui se joue sur Terre, puisque la manipulation angélique et démoniaque se fait parmi les humains. À travers tout un tas de créatures, on apprend bien plus tard qu'en fait les vampires sont le fait du mal. Hein. Les fées, c'est la même chose. Hein, voilà.
Vos deux textes relèvent de la bitlite. C'est une littérature donc au départ sur les vampires qui existe depuis, on va dire, en gros les années 2000. Maintenant, il y a des anges. Alors, je reviens sur le thème de la conférence. Nouvelle créature de la fantaisie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que les anges sont vraiment nouveaux ? Est-ce que c'est pour renouveler un peu le thème avec les vampires, justement ?
Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment eu la volonté de faire quelque chose de nouveau. Il me tenait à cœur de parler des anges et de les mettre en comparaison avec notre propre univers. Je crois que, de toute façon, les anges sont des personnages que je maîtrise mieux que les vampires. Enfin, en tout cas, au moment où j'ai écrit cette série, maintenant de là à la classer en bitlit, où je me suis absolument pas posé la question au moment d'écrire, je crois que ce sont les éditeurs eux-mêmes, hein, qui ont dit « Ah bah tiens, ça se mettrait là ». Je ne me suis pas posé la question. Et finalement, les anges sont pas des nouvelles créatures tant que ça. On en parle depuis, dans les films, dans les séries, on en parle depuis un petit moment. Moi, je trouve que c'est ce sont des personnages intéressants parce qu'ils nous ressemblent. Et quand on regarde l'histoire biblique, ils sont à notre image. Et c'est un peu, je dis tout le temps, les anges, c'est un peu Dieu en boîte. On les prend, on les met là. On les façonne pour qu'ils nous ressemblent, de manière à ce qu'on puisse les comprendre et qu'ils puissent être entendus par nous. Donc, ce sont des créatures qui sont fascinantes, finalement. Elles ne sont pas limitées. Bon, il y a les ailes, etc. Mais dès lors que la foi entre en cause, je trouve que ça les rapproche encore plus de nous, plus qu'un vampire qui, finalement, bon... Il n'y a pas cette notion de foi. Donc, on a un ange et qui peut être en lutte en permanence comme on l'est. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait le choix de ce personnage. Les ailes restent subsidiaires.
Alice Carling.
Je pense que le thème de l'ange n'est pas spécialement une nouveauté en bitlite. En fait, il y a pas mal d'auteurs qui en ont fait la première à laquelle je pense, mais il y en a certainement d'autres avant. Il y a Nalini Singh qui a écrit une série qui dure depuis des années maintenant, dans laquelle le titre de la série, c'est un truc, les archanges, j'ai un trou, non ? Chasseuse de vampires, merci, super, ça illustre vachement bien ce que je disais. Donc, alors... Oubliez tout ce que je viens de dire. Oui, Nalini Singh a fait une série sur les anges et je vais enchaîner. Donc, mais il y a bien des anges, ouais, ouais, ouais. Mais chez moi, les oui, bon, c'est 4 heures de sommeil. L'idée, en fait, c'est que... enfin, mon roman s'est construit d'une manière assez naturelle. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai réfléchi... J'avais envie de donner ce pouvoir à cette héroïne. C'était le pouvoir de posséder les gens. Donc, je lui ai fourgué ce pouvoir. La pauvre fille est venue me voir pour me dire « T'es bien sympa, mais enfin, maintenant, voilà, tu vois, ma vie, elle est un peu pourrie et c'est un peu grâce à toi. Merci, maman. » Donc, du coup, elle s'est mise à me raconter sa vie. Et en fait... C'est comme une espèce de puzzle qui s'est assemblé de manière inconsciente presque, parce que voilà, j'ai réfléchi à mais en fait qui a un pouvoir de possession. Alors je vais essayer d'expliquer tout ça sans spoiler l'intégralité de la série, ça va être chaud. Voilà, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas lu l'intégralité de la trilogie. Mais donc voilà, je me suis posé la question d'où pouvait lui venir son pouvoir de possession, et donc d'un seul coup j'ai eu des réponses. Alors systématiquement, quand j'ai une idée qui fonctionne, il y a un rayon de lumière divin qui apparaît sur mon bureau et des petits angelots qui font donc là je me suis dit, ah oui, mais bien évidemment le pouvoir de possession lui vient de là. Et automatiquement, à partir du moment où elle était ce qu'elle était, il fallait qu'en face elle ait ce qu'elle a. Donc voilà.
C'est clair comme de l'eau de roche.
Alors, Suzy, qui l'a lu, peut témoigner que, voilà, ça fait parfaitement sens. Les autres qui ne l'ont pas lu, bah, du coup, vous n'avez plus le choix, il faut les lire. Voilà, c'est tout. Donc non, mais oui, du coup ouais, les personnages angéliques étaient presque une nécessité. Et après, c'est vrai que j'avais envie d'explorer deux, trois thèmes particuliers qui étaient... la destinée et justement ce que tu disais sur le libre arbitre. Quel libre arbitre on peut avoir face à un destin qui est écrit et face à la pression en fait qu'on peut avoir de par ses origines, de par son passé, d'accomplir certaines choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire. Et ce qui s'appliquait aussi bien à l'héroïne que au héros qui se retrouve en fait à ne plus être exactement ce qu'ils étaient, donc l'ange déchu, les démons qui finalement sont pas tout à fait des démons, et puis j'adore les histoires d'apocalypse. J'avais envie qu'il y ait la fin du monde à un moment donné, et quel meilleur moyen d'avoir une fin du monde que de foutre des anges et des démons à s'affronter sur Terre et à foutre le bazar. Donc voilà, c'est... Je sais pas si je vous ai éclairé, mais au moins je vous ai fait rire.
Absolument, merci. Loïs Murail, dans votre texte, il y a beaucoup de références bibliques. Vous avez dû faire un travail quand même assez important, j'imagine, pour ce texte, parce que vous citez par exemple le commentaire du livre de la Genèse de Martin Luther. Pour les enfants, c'est pas forcément un texte qu'on s'attend à trouver cité, non, disons.
C'est un livre qui échappe totalement, non seulement aux enfants, mais je crois le sens en échappe aussi à la plupart des lecteurs adultes. C'est une malédiction qui me poursuit. Un de mes meilleurs amis m'a écrit après avoir lu ce livre. Il avait l'air un peu inquiet sur mon corps. Il se demandait si j'étais devenu créationniste. Donc, c'est que je ne suis pas toujours clair. Mais il n'y a pas que des références bibliques. Il y a Jung aussi. Il y a aussi... Oui, j'avais travaillé un peu la question, si c'est ça que vous me demandez, absolument. J'ai lu des tas de livres sur les anges. J'ai relu la Genèse, qui est un texte très intéressant, parce que d'emblée, on se rend compte qu'il y a au moins deux auteurs, quand on regarde bien le début. Voilà, il y a deux versions. Voilà, parce que mon livre se termine au paradis terrestre, naturellement. Donc il fallait que je sache où je vais. Mais bon, donc c'est pas une, je l'ai jamais envisagé comme une fantaisie, comme ce qu'on appelle ici fantaisie, quoi. C'est vraiment c'est de la science-fiction au fond, et puis ça prend l'aspect d'une espèce de fable, de conte, j'allais dire philosophique, mais c'est peut-être excessif.
Mais quand vous l'avez proposé à votre éditeur, est-ce que vous avez vendu le projet sur les anges ou pas? Alors pas du tout
au départ. Si j'ai vendu l'idée avant de vendre le livre, c'est ça que vous me donnez? Non.
Quand vous avez parlé de projet d'écriture, ou soit de votre texte fini à votre éditeur, est-ce que vous avez quand même insisté sur le côté ange qui est quand même...
Non, moi je donne le texte et je ne dis rien. Il a dû être refusé par d'autres éditeurs que celui-là, ça c'est sûr. Mais Donc il a fallu que je trouve quelqu'un d'assez inconséquent pour le publier. Et si vous le demandez chez le libraire à côté, vous n'allez pas l'avoir de toute façon. Ne rêvez pas. Le seul exemplaire, il est là.
Il est dans la bibliothèque.
Donc
hein,
on en a d'autres, mais il ne parle pas d'ange, je suis désolé. Mais celui-là a fait une carrière assez brève. Et je suis content de revenir ici, parce que c'est le seul endroit où on s'intéresse à lui, finalement. Mais c'est un de mes meilleurs livres, quand même. Je crois, mais il est vraiment très, très bizarre. Je ne sais pas, vous qui l'avez lu, vous confirmez. C'est un livre bizarre.
C'est-à-dire qu'on se demande en fait, un peu si le public est vraiment un public jeunesse ou un public un peu moins jeunesse. Moi, c'est plutôt ça la question que je me suis posée, parce que je me suis dit que les enfants allaient être un peu...
Il y a même des gens qui ont répondu à cette question. Eh ben non, mais c'est pas grave.
Mais c'était un texte très intéressant, c'est pas le... voilà. Carina, est-ce que vous vous rappelez, parce que votre texte est quand même le plus vieux de la sélection, est-ce que vous vous rappelez en 2008 si vous avez effectivement vendu votre projet, j'appelle ça vendu, mais c'est-à-dire à votre éditeur, hein, en parlant des anges, ou en fait pas du tout, vous étiez vraiment sur de la SF pure
et... Ah, j'ai jamais prononcé le mot ange. Jamais, jamais, jamais.
Donc ce n'est pas votre faute.
Dans ma tête, ça n'a jamais été des anges, et quand j'ai proposé le projet à mon éditeur, ça n'a jamais été des anges, c'était d'emblée des gens qui venaient d'un autre monde. J'avais une idée très claire là-dessus. Dans les thèmes que je veux aborder dans mon écriture, en ce moment, alors c'est marrant parce que du coup je me dis, il faudra que je lise parce que je me suis abonnée à Netflix et il y a une série qui s'appelle Fallen qui avait été diffusée en 2006 qui parle des anges déchus, des néphilim, etc. Et j'ai lu en même temps, mais j'ai même pas fait gaffe que c'était le même thème, Angel Fall qui est sorti il y a pas longtemps. Qui parle pareil des néphilines, des anges déçus, etc. Et là, je me dis, ça doit être super la mode en ce moment, les anges. Mais j'aime bien le lire, mais alors c'est vraiment un sujet, je pense que je serais complètement incapable d'écrire sur ce sujet-là. C'est pas que ça m'intéresse pas, puisque je le lis, mais je saurais pas quoi raconter. En plus, je trouve qu'il y a des gens qui ont raconté des histoires déjà dessus qui font très bien. Donc, et il y a donc des tas de voix pour ça. Moi, je suis très branchée SF, hein. J'ai grandi là-dedans, je suis tombée dans la soupe de la SF très très jeune. Et donc pour moi c'était d'emblée une histoire de SF avec des gens qui viennent d'un autre monde, des trucs qu'il faut recréer. Alors ça reste très actuel parce que tout se passe sur Terre, on est quand même dans un monde très ancré dans la réalité, ça se passe à notre époque sur Terre, avec des ados qui ont les préoccupations d'ados classiques, hein. Et ils ont cette petite particularité d'avoir des ailes dans le dos. Mais comme ils ont toujours grandi sur Terre, ce monde qu'ils doivent recréer leur est complètement étranger. Donc voilà, il y en a qui le classent dans la fantaisie parce que on est dans une réalité très ancrée avec ce petit détail des ailes qui vient bouleverser la réalité. Il y en a qui disent non, c'est de la science-fiction parce qu'ils viennent d'un autre monde, mais comme on le voit vraiment quasiment pas, j'ai fait une deuxième saga qui se passe 2 ans après à la demande de mes lecteurs hystériques qui me disaient on en veut plus, on adore, etc. Donc j'ai créé une deuxième aventure qui se passe 2 ans après avec les mêmes personnages. Là, ils sont sur une autre planète. Donc là, on est vraiment ancré dans la science-fiction. Et là, tout le monde a des ailes. Et c'est clair et net qu'il n'y a pas d'histoire d'ange du tout. Même en soulevant des cailloux, en cherchant bien, il n'y a pas d'ange.
Et je pense que peut-être aussi ce côté voilà, où on parle des anges, c'est parce que quand on commence le texte, en fait, on est au même niveau que le héros. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas tout ça. Sauf qu'il a des boutons dans le dos qui le démangent extrêmement et qu'au bout de quelques jours, ça devient des ailes, quoi. Et donc, du coup, le lecteur se dit, est content d'avoir trouvé avant le héros, enfin, j'imagine quand on est adulte en tout cas, je ne sais pas comment les jeunes le vivent, mais voilà, on se dit, ah, ça va être un ange. Donc, du coup, je pense qu'il y a ce côté-là qui fait que, ah, on a trouvé, donc on est content et hop, ça mange.
Bon, la scène où ses ailes sortent, ça est assez gore, il y a plein de sang, machin et tout. D'ailleurs, c'est une des scènes préférées des ados. On se dit, voilà. Lui-même, comme il a subi un moment très douloureux, quand elles sortent, ça se fait pas. Oh, c'est joli, il y a des petits arcs-en-ciel, des licornes et des trucs comme ça. Il a mal. C'est quand même une partie nouvelle de son corps qui sort. C'est presque un accouchement. La première chose qu'il se dit, c'est je suis mort et je suis un ange. Parce qu'il se dit, j'ai tellement mal. Après, il se demande s'il n'est pas un X-Man. Donc là, je retombe tout de suite dans la science-fiction.
Alors, j'avais une question aussi sur la langue des anges, parce que dans la tradition, en tout cas soufie, j'ai vu, il existe une langue des anges qui est appelée langue syrianite, qui est proche de la langue des oiseaux. Loris Muraille, apparemment, Colin parle des fois cette langue. En tout cas, ce qu'il dit n'est absolument pas compréhensible par les autres.
Oui, j'ai étudié tout ça naturellement à l'époque, mais ne comptez pas sur moi aujourd'hui. Bon, j'avais pris la méthode à 6000.
C'était aussi une façon de parler de la problème de communication en fait aussi entre les gens, puisqu'on voit bien qu'il communique, il a vraiment des problèmes de communication avec ses parents, avec les gens, et donc la langue des anges c'est aussi peut-être une façon de dire voilà que les humains déjà n'arrivent pas à communiquer entre eux.
Ça, c'est vrai, des fois, oui, c'est une erreur qu'on a commise en sortant du paradis terrestre, je pensais, c'est de se disperser, de se multiplier, d'inventer des tas de langues différentes. Qui font aujourd'hui partie du patrimoine de l'humanité que beaucoup pensent devoir préserver. Néanmoins, je crois que si on parlait tous la même langue, ça faciliterait parfois la compréhension. Ça aurait pu être celle des anges, mais j'ai peu d'informations à son sujet. En fait.
Alors, dans vos textes, en tout cas chez Sophie Jomain, les anges parlent entre eux quand même la langue des anges.
Ouais, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une langue. Hein. Felicity dit que ça ressemble à une espèce de guitare dont on tire les cordes et que c'est absolument insupportable. Hein, et que, à tel point qu'à chaque fois qu'elle les entend parler, elle s'éloigne. Hein, elle trouve ça insupportable. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur le. Ça serait bien qu'on. Enfin, si on parlait tous la même langue, on aurait. Sans doute moins de problèmes de compréhension. Si on ramène ça à la Bible, Dieu est chiant, en fait. Parce que quand il dit « Vous parlerez tous les langues des anges et des hommes », ça se fait, donc, à un moment donné, pour la Pentecôte, hein, ça se fait. Et pour autant, ça ne rapproche pas les hommes, le fait de tous parler la même langue. Et je pense que... je pense au contraire, C'est presque une bénédiction qu'on ne parle pas tous la même langue.
Hein, parce non, puis que... je viens de penser à un truc, c'est que ma femme est traductrice et donc je retire ce que j'ai dit.
Que... Elle aurait plus de travail.
Ça lui donne du boulot, ça, c'est juste parfait, ça, c'est juste génial. Mais en fait, ce qui est très intéressant, ne serait-ce que quand on lit un bouquin dans différentes langues, quand on voit la perception qu'il y a entre une traduction anglaise et puis la traduction française, par exemple, originale. La perception n'est jamais la même et c'est pas toujours confronté à une histoire de vocabulaire. C'est aussi quelque chose qui est...
Il y a des guerres qui ont été déclenchées pour une erreur de traduction.
Pour une histoire de mots.
Pour un mot de... Oui, c'est...
Juste, je pour revenir à la religion, dans la Bible, Jésus parle de ses frères. Pour les catholiques, il s'agit de ses frères spirituels. Pour les protestants, il peut s'agir de ses frères charnels. Là aussi, c'est un détail de traduction. Et je trouve que c'est ça qui est très riche, finalement. Bon, ça peut poser des problèmes, je suis OK. Hein. Mais c'est ça qui est très riche, c'est de se dire que la perception peut être différente. Et voilà. Mais bon, en tout cas, moi, mes anges, on ne comprend pas. Quoi. D'ailleurs, vous avez remarqué que je n'ai pas essayé de donner une traduction. Hein.
Alice Carling, il y a beaucoup question de musique dans votre texte, mais est-ce qu'on entend la langue des anges ?
Alors non, pas du tout, parce que mes anges ne parlent pas une langue en particulier, en fait, pour des raisons pratiques. Anges comme démons ont la capacité de parler toutes les langues. Donc du coup, voilà, ils peuvent communiquer avec tout le monde et n'importe qui. Et c'est... J'y avais pas forcément réfléchi, mais j'y pense maintenant. En fait, ce que vous disiez tous les deux sur le fait que si on parlait tous une seule langue, la compréhension et en même temps, voilà, il y a une chose, c'est que, alors moi je parle, j'ai deux langues maternelles, et en fait, je suis heureuse quand je peux parler avec des gens dans un mélange des deux. Ce qui est absolument horrible et ce qui vrille les oreilles des gens qui ne comprennent pas ce que je dis dans les deux langues, mais c'est le moment où je m'exprime le mieux, en fait, parce que chaque langue, c'est pas seulement, enfin une langue, c'est pas seulement des mots, c'est pas seulement du vocabulaire. Et si c'était, si chaque mot avait un strict équivalent dans l'autre langue, bah on n'aurait même pas besoin de traducteur dans une dizaine d'années, un ordinateur pourrait le faire. Mais en fait, chaque langue charrie sa propre culture et chaque mot a des connotations qui sont propres à la culture en question, à la culture à laquelle elle appartient. Et du coup, je reviens à mes anges et mes démons qui parlent toutes les langues. En fait, comme ils sont retirés de l'humanité, ils y appartenaient à un moment donné, mais ils n'y appartiennent plus. Et ils ont donc tout un tas de pouvoirs divers et variés. Salut, je lance des flammes. Voilà, c'est impressionnant, ça impressionne la galerie. Mais à côté de ça, ils ont aussi cette capacité que moi je trouve géniale et c'est un pouvoir que j'adorerais avoir, c'est de parler toutes les langues qui existent. Toutes, même le Klingon, c'est bon, il maîtrise. Oui, absolument. Il y a un moment donné, il y en a un qui dit oui, même le Klingon. À partir du moment où ça a été inventé, il le parle. Mais en fait, du coup, c'est aussi quelque chose qui les éloigne de leur humanité. C'est quelque chose qui leur rajoute un cran en plus de on n'est vraiment pas, on est vraiment des créatures un peu bizarres quand même parce qu'ils sont plus connectés en fait à cette réalité justement d'incompréhension, à cette réalité de il y a une culture qui va avec. À partir du moment où ils peuvent comprendre tout et n'importe quoi, ils ne se posent plus la question de leur propre identité et de ce qui est en fait. Ils sont, comment dire, c'est pas, enfin, il y a un côté robot en fait, c'est à dire qu'à partir du moment où on enlève l'incapacité de se comprendre, l'incapacité de parler toutes les langues de l'univers, et que on se retrouve en fait à donner des messages sans fournir d'émotions avec. C'est-à-dire que la langue devient juste un outil, un mode d'expression, mais il n'y a pas d'attachement émotionnel à ce qu'on dit. Ce qui est, dans l'humanité, a un attachement émotionnel à ce qu'on dit, parce que de toute façon, rien de ce qu'on dit, rien de ce qui passe notre bouche n'est exactement comme c'est dans notre cerveau, parce qu'on a cette limitation-là qui est, je ne sais pas comment finir cette phrase, mais vous voyez à peu près l'idée, voilà, la limitation dont je parlais. On ne peut pas exprimer l'intégralité des idées qu'on a, parce qu'on a la limitation de la langue et des notions qui existent.
Waouh. Est-ce que vous avez des projets qui incluent des anges ou pas du tout ou pas du tout? Mais alors, est-ce que vous voulez nous parler de vos projets?
Des projets?
Ou pas d'ailleurs. Vous pouvez nous parler aussi d'autres projets que vous avez. C'est tout à fait...
Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Mon prochain livre à paraître concerne la comtesse de Ségur. Donc, un grand écart. Voilà. C'est en septembre. Ça racontera un épisode peu connu quand elle avait 13 ans. Le père de la comtesse. Vous savez, elle signe toujours Ségur, né Rostopchine. Rostopchine était le gouverneur de la ville de Moscou au moment où Napoléon envahit la Russie. Et elle a 13 ans à ce moment-là. Et le gouverneur en question, qui est totalement d'ailleurs francophone, francophile, comme tous les Russes bien éduqués, ils parlent tous le français mieux que le russe. Néanmoins, il ne veut pas livrer sa ville. Donc il a fait évacuer et il fait incendier Moscou, qui est totalement, sans doute, le plus grand incendie de l'histoire qui a été connu. Voilà, donc elle a 13 ans et elle n'y assiste pas tout à fait parce qu'elle a été mise évidemment à l'abri, mais l'incendie est tellement effroyable qu'à des dizaines de kilomètres, là où elle se trouve, elle voit ce qu'elle compare à une aurore boréale. Voilà. Là, ça commence comme ça, de la vie de la comtesse de Ségur. Et donc son père va ensuite va émigrer, parce que les Russes ne lui pardonneront pas d'avoir sauvé leur pays en détruisant Moscou. Et il va être accueilli en France en héros, parce que Napoléon est tombé et que la monarchie a été restaurée. Donc, voilà. Et pendant ce temps-là, Sophie, sa fille, rencontre un bel homme, le bel Eugène, Eugène de Ségur, qui est le neveu, je crois, de l'aide de camp de Napoléon pendant la campagne de Russie. Donc c'est extrêmement... Voilà.
Merci beaucoup. Donc, pas d'ange. En septembre. Non, pas d'ange. Karina.
Alors, pas d'ange. J'ai un troisième tome à sortir avec mes non-anges. Donc voilà, ce sera le dernier bouquin avec des ailes. Donc peut-être qu'on arrêtera de me mettre sur les conférences sur les anges comme ça. Le prochain livre qui sort, c'est en septembre, mais il sort en Angleterre puisque c'est un livre qui a été coécrit en anglais avec C.J. Dougherty. Là, on parle de malédiction et d'alchimie, des alchimistes. Voilà, donc pas d'ange. Il y a des pouvoirs, il y a des mystères, il y a un peu de démons aussi, mais il n'y a pas d'ange. Voilà.
Et vous, mesdames ?
Eh bien, moi, les deux derniers tomes de la série des anges, donc le prochain sera Les anges battent la campagne. Voilà, voilà. Et je terminerai le sixième tome et en découlera un spin-off sur un personnage qu'on va découvrir bientôt et peut-être une novella aussi sur le personnage de Stéphanie qui est un archange
Et médecin légiste.
Et médecin légiste et super sexy et auquel on ne comprend pas grand-chose en fait. On a toujours des tenues pas possibles, on se demande pourquoi. Et donc le tome 5 révélera davantage de choses sur elle. Et j'avais l'intention de faire une novella qui expliquera exactement comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà, donc le prochain tome sortira en octobre, probablement le 10 octobre. Et puis après, il y a d'autres projets, mais bon, enfin, une autre publication aussi à la fin de l'année, mais rien à voir avec le fantastique. Voilà.
Merci. Alice Carling.
Eh bien, moi, ayant fini ma petite trilogie, je me repose un petit peu sur mes lauriers. Donc, je joue à Diablo, beaucoup, voilà. Et je ne sais pas du tout ce qui va suivre. Alors, je vais continuer, je vais écrire quelque chose incessamment sous peu. Mais comme vous m'entendrez souvent le dire, il faut d'abord que je fasse le tri dans mes post-it avec des idées... un peu délirante. Oui, oui, oui. Mais en fait, le truc, c'est que pendant que j'écrivais le tome 3, bizarrement, mon cerveau était en mode dis, on pourrait écrire un bouquin là-dessus. Eh, ça serait rigolo, hein. Et puis, comme ça, toutes les 5 minutes. Et du coup, oui, mon cerveau est un peu comme ça. Et du coup, je notais sur des post-it et je les ai tous collés sur mon mur. Et maintenant, je suis là, genre, ouais, ça, je suis pas sûre que c'était une bonne idée, en fait. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, c'est une révélation. Nous allons très bien chez Milady, mais en fait, ouais, on nous prend là-dessus. Quand on envoie un manuscrit, il faut préciser, je suis bien schizophrène, je garantis que...
Oui, ouais, ouais, absolument.
Non, c'est pas de la schizophrénie, c'est de la personnalisation improbable de...
Multiple.
En même temps, avec les anges, tout ça, je veux dire, on reste quand même hein, sur des choses...
Je ne mords pas.
Les vampires, si, mais les anges, non. Mais les anges mordent aussi. Donc voilà, je vais vous remercier toutes et tous. Vous retrouvez bien sûr les conférences à partir de 14h. Je crois qu'Alice Carling, vous avez une conférence à 14h. Vous enchaînez. Donc voilà, et vous retrouvez bien sûr nos auteurs sous la bulle du livre pour les dédicaces. Merci, bonne journée.
Merci.